Gloire à Dieu. Amen. Alors, on va lire quelques versets ce matin dans, j'étais pour dire, votre livre favori. C'est peut-être pas votre livre favori, parce qu'on a tous un livre favori dans les Saintes Écritures, mais surtout lorsque Dieu nous parle, c'est un moment précieux pour nous. Lorsqu'on reçoit une parole du Seigneur, un rhéma, qu'on dit un rhéma en grec, une parole du Seigneur qui nous touche dans nos cœurs, hein, eh bien, c'est ça qui est favori pour nous. Mais j'étais pour dire le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, et on va parler un petit peu sur l'Apocalypse, et on va lire Apocalypse 21, le chapitre 21, l'avant-dernier chapitre, et les premiers quatre versets de la Bible. Amen. Êtes-vous prête? Comment ça va, matin? Amen. Êtes-vous heureux, heureuse? Vous ne dites pas tout le temps. C'est normal. Mais nous sommes ici, et dans la présence du Seigneur, ça devrait bien aller. Amen. Alors, je veux juste sortir ça, ça va m'aider. Amen. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça commence bien. Amen. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. » Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La bonne nouvelle, ce matin. Encore une fois, lorsqu'on ouvre les Écritures, il y a toujours bonne nouvelle. Et alors, on veut le bénir, le remercier pour l'espoir qu'on a. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. C'est cela qui nous unit. C'est ta parole. C'est ton esprit, ton Saint-Esprit qui a été envoyé et que l'Église a débuté dans les Actes des Apôtres, plutôt les Actes du Saint-Esprit, par les apôtres, par les disciples, et que ça continue jusqu'à 2023. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, au-delà de 2000 ans, Seigneur, que tu as déversé ton esprit et que tu déverses ton esprit dans nos cœurs, même ce matin. Et on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole. Elle est oui et amen. Elle est vérité. Et si nous ouvrons nos cœurs, elle nous fait du bien. Tu, par ton Saint-Esprit, tu nous fais du bien, Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous libère, qui nous prépare pour les choses à venir, les choses à venir. Aide-nous, Seigneur, à les regarder entièrement avec toute la vision que tu nous donnes au nom de Jésus. Amen. Alors, raison d'espérer. Certainement, lorsqu'on commence à lire les Saintes Écritures, lorsqu'on commence à lire les Épîtres comme Éphésiens, qui nous parle d'être tellement rempli de son esprit, qui nous parle de toutes les promesses de Dieu, de toute la puissance de Dieu en nous et l'espoir qu'il nous donne de marcher dans ce monde. Et lorsqu'on on commence à lire dans l'Apocalypse et voir ce que Dieu est en train de préparer, ce que Jésus a dit dans les évangiles, « Je vais vous préparer une place et ensuite dévoile cette place-là. » Bien, c'est un temps de célébration. C'est un temps de bénir le Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia! Nous avons raison d'espérer. S'il y a un peuple qui a raison d'espérer, c'est nous autres. Parce que toute autre chose est instable, n'est-ce pas? Toute autre nouvelle, c'est habituellement des mauvaises nouvelles. J'ai jamais entendu quelqu'un, lorsque vous regardez les nouvelles, et qui viennent puis ils disent, « Mesdames et messieurs, ce soir nous avons que vous donner des bonnes nouvelles. » Ils vont vous donner des énumérer des bonnes. Non, c'est toujours habituellement toutes des mauvaises nouvelles. Et on se gratte la tête puis on dit mais, est-ce que c'était toujours comme ça dans le monde? Il me semble que c'est pire que c'était. Peut-être, mais peut-être parce que le média est tellement, c'est tellement disponible. Et puis, on nous rentre ça dans notre esprit, on nous rentre ça dans la tête. On peut avoir écouté les nouvelles. À l'époque, on écoutait les nouvelles juste à 10 heures le soir, puis qui venaient. Mais aujourd'hui, vous pouvez juste écouter les nouvelles autant de fois que vous voulez. Alors, je ne sais pas si vous lisez votre Bible aussi souvent que vous écoutez les nouvelles, mais pensez-y. Parce qu'il y en a un qui va transformer votre esprit, puis il y en a d'autres qui vont, l'autre qui va abaisser votre esprit. Guess laquelle? Amen. La revue Sélection, Reader's Digest, avait un article intitulé « Reason to Hope », « Raison d'espérer ». Je lisais ça la semaine passée lorsque j'attendais au bureau d'un docteur, et puis j'ai vu un Reader's Digest, là, j'ai commencé à lire un petit article qui disait « Reason to Hope ». Et puis je disais, moi, je me demande c'est quoi la raison d'espérer de cette dame. J'étais curieux de savoir la raison d'espérer. Alors, c'était une entrevue qui était donnée avec Jane Goodall. Vous avez sûrement vu sa photo. Jane Goodall, la fameuse primatologue. Primatologue, ça veut dire l'étude scientifique des primates, autrement dit des singes. OK, puis c'est là, vous l'avez vu souvent, quand elle était jeune, toute sa vie, avec des singes. J'étais en amour avec des singes. Mais elle avait, à l'écrit de cet article, ça fait peut-être 3-4 ans de ça, à cette époque-là, elle avait 81 ans, Jane. Et puis, elle voyageait encore, à l'âge de 81 ans, elle voyageait encore environ, on nous dit, 300 jours par année. 300 jours par année voyageait le monde afin d'inspirer les plus jeunes de s'impliquer dans les problèmes d'environnement. Elle dit ceci, écoutez bien qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit, le but de notre vie est de rendre le monde meilleur et de vivre pleinement. OK? Le but de notre vie, elle dit, est de rendre le monde meilleur et de vivre pleinement. Et c'est ça son but. Et alors, je dirais, ben c'est pas un méchant but, quoi qu'elle cela puisse être admirable de sa part et le travail qu'elle a fait en tant que primatologue, c'est merveilleux les choses qu'elle a faites, j'imagine, c'est admirable, mais je veux vous suggérer un meilleur but que ça. La Bible nous enseigne d'ailleurs que le but de l'homme, le but de notre vie est de glorifier Dieu et jouir de lui pour toujours. C'est ça le but de l'homme, en réalité, que les Écritures nous enseignent, que le but de l'homme, le but de notre vie, est de glorifier Dieu. De glorifier Dieu avec notre vie, avec les talents, avec les dons que Dieu nous a donnés. Nous devons glorifier Dieu et se jouir de lui pour l'éternité. De se jouir maintenant, aujourd'hui et demain et pour l'éternité, de se jouir de lui. Moi, je dirais ça, c'est un meilleur but. Bien meilleur but. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour… » Amen! Pour la gloire de Dieu. Et c'est ça le but d'un homme. La plupart du monde regarde le livre de l'Apocalypse et d'ailleurs toute la Bible en son entier comme étant des histoires de contes de fées. Oh, ça, ça a été écrit par des hommes. Bon, tu peux pas croire ça, voyons. Jonas, puis la baleine. Jonas, puis le grand poisson. Tu peux pas croire des choses comme ça. C'est des histoires de contes de fées, la majorité du monde disent. Mais pour l'enfant de Dieu, pour le croyant, pour le chrétien, la Bible est son espoir, son espérance pour aujourd'hui et pour demain. Pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et les deux derniers chapitres de l'Apocalypse, chapitre 21 et chapitre 22, décrivent richement l'accomplissement futur des promesses de Dieu trouvées en Jésus. Apparemment, le non-chrétien trouve que c'est plus facile pour lui de croire les contes de fées. Ils nous blâment, ils nous disent que nous autres, on lit des contes de fées, mais c'est plutôt, je crois, eux autres qui trouvent que c'est plus facile de croire dans des contes de fées. Par exemple, parmi la communauté scientifique, le support pour la théorie de l'évolution est de 95 % des scientifiques. 95 % croient dans la théorie de l'évolution. Il y a seulement 5 % qui sont des créationnistes, c'est-à-dire qui croient dans qu'il y a un être divin, un être suprême qui a créé l'univers. Mais vous savez que ce n'est pas toujours la majorité qui ont raison, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas toujours la majorité qui ont raison. Et on trouve ça assez spécial ici. Un grand auteur, écrivain, philosophe, théologien, G.K. Chesterton, il dit ceci. Il est absurde pour l'évolutionniste. Ceux qui croient dans l'évolution, il est absurde pour l'évolutionniste de se plaindre qu'il est impensable qu'un Dieu existe. Certes, impensable qu'il créa tout à partir de rien. Et ensuite prétendre qu'il est plus pensable que rien ne se transforme en quelque chose. Pour eux autres, c'est plus pensable que rien ne se transforme en quelque chose. Alors, ils préfèrent croire, par exemple, en des choses comme les ovnis. Les ovnis, les soucoupes volantes. On nous dit que 36 % des Américains, c'est-à-dire 80 millions des Américains, 36 % de leur population croient dans des ovnis. Des soucoupes volantes. Hein? Une nouvelle étude montre que ça prendrait 200 000 ans, 200 000 années pour un vaisseau spatial qui voyage à la vitesse de la lumière de traverser notre galaxie, seulement notre galaxie. Il y a des milliards de galaxies. Mais juste pour traverser notre galaxie à la vitesse de la lumière, ça y prendrait 200 000 ans pour se rendre ici sur la planète Terre. Hey, eux autres, quoi dans les contes de fées? Hey, je vais vous dire. Je constate que c'est plutôt eux autres, pas nous autres. Pourquoi tout cela? C'est parce que les gens veulent refuser de croire dans ce qui a du sens, dans ce qui est tellement béni. Lorsqu'on regarde un insecte, lorsqu'on regarde une chose dans un microscope et qu'on voit la beauté, qu'on voit le miracle, et lorsqu'on regarde des milliards de galaxies, on voit et on se dit, il doit avoir un créateur. D'ailleurs, la nature parle d'un grand créateur. Mais non, il y a mieux croire dans des extraterrestres. Les gens vont dire, oh, moi je crois là-dedans. Et le monde se prépare qu'un jour il va y avoir quelque chose qui va arriver. Et puis, lorsque l'enlèvement de l'enfant de Dieu, lorsque l'enlèvement, la promesse de Christ sera accomplie et que nous partirons dans un clin d'œil, les gens vont dire, il doit y avoir eu une soucoupe volante, des soucoupes volantes qui ont venu les prendre. Il y a quelque chose comme ça, je vais vous dire, qui est arrivé. Ça me fait penser à une couple de petites questions pour vous. Pourquoi l'extraterrestre est-il parti dans son vaisseau spatial? Pourquoi a-t-il parti dans son vaisseau spatial? Il avait besoin d'espace. Ou comment l'extraterrestre paye-t-il son café? Avec des Starbucks. Comprenez l'anglais? Quelle est la barre de chocolat préférée d'un extraterrestre? Un Mars bar. Pourquoi les extraterrestres renversent-ils toujours leur thé? Parce qu'ils ont des soucoupes volantes. OK, on peut-tu retourner au sérieux maintenant? Okay. Assez, c'est assez de ça. Mais regardons le thème. Ici, le premier thème de l'Apocalypse, chapitre 21 et 22. Le premier thème, c'est l'histoire de rédemption. L'histoire de la rédemption. Et que cette histoire de la rédemption culminera dans de nouveaux cieux, qu'on vient de dire, et une nouvelle terre. Amen. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors, Apocalypse, le premier verset du chapitre 21 dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire, d'ailleurs, ça nous parle de ça ailleurs aussi, que nos afflictions, nos faiblesses, nos douleurs, nos larmes, notre dernier ennemi, la mort, ça va tout disparaître. Un jour, ça va disparaître et il y aura, Dieu nous dit, une nouvelle ordre des choses. Une nouvelle ordre des choses. On parle souvent aujourd'hui d'une nouvelle « a new world order », un nouvel ordre mondial, mais c'est plutôt un nouvel ordre universel par la main de Dieu qui va arriver avec nouveaux cieux, nouvelle terre. Et ça nous parle que la mer va disparaître. Pourquoi la mer qui va disparaître? La mer qui va disparaître symbolise le chaos sur la terre après la rébellion de l'homme. La rébellion et la méchanceté de l'homme. Il y a eu le déluge de Noé, et cela explique ce phénomène des mers. Lorsque Dieu envoya le jugement sur terre, lorsque Dieu envoya le déluge et l'homme a été détruit à l'exception de Noé et sa famille. Et si vous regardez, sans doute vous avez remarqué cela, vous voyez ici sur la carte, une carte qui montre les continents qui sont ensemble avant le déluge et à la fin des temps, que ça va revenir. Si vous regardez sa carte, vous constatez que les continents fit, ça marche ensemble, ça fit ensemble comme un casse-tête, comme un puzzle en bon français. Hein? Alors, on réalise qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans le passé et la Bible nous parle de cela. Et alors, bientôt, pour vous et moi, bientôt, très bientôt, le paradis perdu sera le paradis retrouvé. Ce qui était au début avec Adam et Ève avant leur chute, avant la chute de l'homme, eh bien, c'était le paradis. Et le paradis perdu sera maintenant le paradis retrouvé. Hein? Mais avez-vous hâte? Hein? Le paradis retrouvé. Voilà le premier thème de l'Apocalypse, chapitre 21 et 22. Et encore une fois, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, que le premier ciel, la première terre avait disparu, la mer n'était plus. C'est ça le plan de Dieu. Qu'un jour, ça va y arriver à cela. C'est le premier thème. C'est la première révélation que Dieu nous donne des choses qui vont venir, qui viennent, et que ça va être, tout va être changé, que tout va être nouveau maintenant, et que ça va être une nouvelle terre, nouveaux cieux, et tout sera transformé. Deuxième thème, ça nous parle un petit peu, afin qu'on puisse comprendre mieux, ça nous parle d'un mariage. Apocalypse chapitre 21, verset 2, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Alors, vous savez, on vit dans un monde brisé, n'est-ce pas? Je veux dire, on vit dans un monde brisé, on brise les lois, tout est brisé. Malheureusement, les familles souffrent. Il y a des mariages qui sont brisés, il y a des gens qui souffrent, les cœurs sont brisés. Il y a toutes ces choses-là. Même qu'on fait des promesses, tantôt j'ai dit, on prend des vœux. Mais les vœux sont malheureusement brisés. Des fois, c'est parce que l'homme est pécheur. L'homme est imparfait, l'homme a brisé, et il est brisé, mais il va avoir la promesse que Dieu nous donne ici, lorsque Dieu vient, lorsque on nous parle que qu'est-ce qui va descendre du ciel d'auprès de Dieu, ce qui était auprès de Dieu maintenant va descendre, il va descendre, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem va descendre, préparé comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et alors, c'est des fois, on regarde le mariage, même les jeunes de cette génération ne veulent pas se marier parce qu'ils ont peur de ça, parce qu'ils ont vu notre témoignage. L'ancienne génération, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Et alors, les gens, plus ou moins, ne sont pas intéressés dans le mariage. Et puis, mais vous savez, frères et sœurs, lorsque nous serons avec lui, lorsque nous serons assis à la table du Seigneur, le repas du Seigneur qu'on vient de prendre, ça sera un mariage qui durera pour l'éternité. Il n'y aura plus de divorce, il n'y aura plus de séparation, il n'y aura pas de séparation entre vous et Jésus-Christ. Ça va être pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il utilise cela comme exemple dans ces versets. Tous les préparatifs et tous les événements à travers l'histoire, à travers l'histoire de l'homme, depuis le début, tout ce qui, après la chute de l'homme, Dieu, il y avait toujours un plan qui était là, et Dieu prépare maintenant, il prépare nos cœurs, il prépare son épouse, il prépare l'Église, il nous prépare, et c'est ses préparatifs, les préparatifs de Jésus-Christ pour ce grand jour, ce jour qui va venir, qui va arriver enfin. Et finalement, on peut dire enfin, la terre, aujourd'hui, la Bible nous dit que la terre même soupire après ce grand jour. Même la nature soupire après ce grand jour. Les arbres, ça nous dit, les arbres soupirent après ce grand jour. L'Église soupire après ce grand jour. Et l'agneau de Dieu soupire après ce grand jour lui-même. Voyez-vous, on anticipe ce grand jour. Et Christ, plus que tout autre être, plus que nous, anticipe ce grand jour. Alors, Romains 8, 19 nous dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Wow! Même la nature. Et Jésus dit « Oui, je viens bientôt. » On peut ressentir qu'il veut, qu'il a hâte, qu'il y a un ardent désir, n'est-ce pas? Parce qu'il dit « Oui, je viens bientôt. Attendez-moi. » Placez votre confiance en moi. « Oui, je viens bientôt. » Et alors, on doit se préparer et croire de tout notre cœur que Jésus va venir enlever son Église. Avant le jugement de Dieu sur cette terre, il va venir enlever son peuple qu'il aime. Alors, pour pleinement apprécier ce thème, nous devons se rappeler, frères et sœurs, que les Écritures regardent la rédemption de l'homme, la rédemption en étant une période prolongée, c'est quelque chose, son plan, c'est une période prolongée où Christ travaille, il travaille en vous et moi, il est en train, il protège, il nous protège, il prépare et son épouse, il prépare son Église tout au long de l'histoire de l'Église. Tout au long qu'il y a eu de peine et misère, qu'il y a eu des tribulations, qu'il y a eu des gens qui ont souffert, qui ont perdu leur vie. Et dans le 21e siècle, qu'il y a plus de chrétiens qui souffrent aujourd'hui que toute l'histoire. Depuis le début, wow! Ça veut dire, c'est un autre signe que le Seigneur, il dit, « Oui, je viens bientôt. » Qui est l'épouse qu'on parle ici? Qui est l'épouse? Ça nous dit dans le verset 27, Apocalypse chapitre 21, « Ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, ce sont ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qui vont faire partie de ce plan dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Ce sera la victoire ultime, le jour où Jésus recevra son Église parée et vêtue de vêtements blancs. Alléluia! Vêtements blancs à cause de son sacrifice, à cause de sa croix, à cause du tombeau vide, nous recevrons des vêtements blancs. Ça veut dire la pureté de l'âme, la pureté de l'homme. Finalement, la pureté de l'homme, la chute de l'homme, mais maintenant, il va revenir comme pur encore, comme il était au début, comme Dieu l'a créé, comme Dieu l'a fait, comme Dieu a touché Adam et Ève. Eh bien, il va revenir, l'homme va revenir encore une fois pur et saint, fidèle et vrai. Alléluia. Si à ce temps-là, on chante pur et pur et saint, fidèle, Seigneur, fais de moi un sanctuaire. Maintenant, oui, Oui, il nous prépare, voyez-vous. Il est en train de vous préparer de le voir face à face. Oh, quel bon Dieu que nous avons. Nous ferons en vérité la joie du Seigneur. Nous, vous. Vous ferez la joie du Seigneur. D'ailleurs, nous faisons sa joie maintenant. Croyez-vous ça? Nous faisons sa joie maintenant. La joie du Seigneur sera votre force, dit Néhémie. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça m'encourage aujourd'hui de savoir qu'il y a, que le Seigneur est rempli de joie et anticipe sa venue. Oui, Seigneur, Jésus vient. Et puis, il dit, oui, je viens bientôt. Il anticipe de nous prendre avec lui. Et il est rempli de joie, la joie du Seigneur. Et à cause qu'il y a une joie, à cause que je peux visionner, je peux le voir sur son trône, à la droite du Père, je peux le voir visionner, qui est tout excité, qui est tout plein de joie, hein, parce que bientôt, très bientôt, il revient chercher son épouse qui est parée. Et préparé pour lui. Et alors, ça là, regardez ça, de savoir que Christ est rempli de joie pour vous, pour moi, cela fait ma force, frères et sœurs. Cela fait ma force. Cela me dit, je suis par la force que l'Esprit de Dieu nous donne. Ça me donne le courage, ça me donne la force de continuer, ça me donne la force de me donner entièrement à lui, corps, âme, esprit, ça me donne la force de le servir, pas être servi, mais le servir, parce que sa joie est remplie pour vous et moi. Wow! La pensée, je veux dire, c'est pas notre joie, c'est sa joie qui fait ma force. Comprenez-vous? Sa joie qui fait ma force. Et alors, l'Église célébrera son Jésus qui a donné sa vie pour elle. Et Christ célébrera son Église qui l'a tant aimée. Quel beau jour ce sera quand mon sauvage verra. Jésus, je contemplerai, car par sa grâce, il me sauva. Pour traverser le Jourdain, il me prendra par la main. Quel beau jour, ce sera. Amen. Quel beau jour, ce sera. Et alors, le premier thème, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Le second thème est un mariage pour l'éternité. Et le troisième thème est la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu qui descendra du ciel. Ici, le temple de Dieu habite, le peuple de Dieu habiteront avec Christ, avec lui, dans un nouveau temple, dans une nouvelle cité. Je regrette, frère et soeur, ce ne sera pas Edmundston, OK? Ça va être la cité de Dieu. Et l'homme habitera avec Dieu. L'apôtre Jean voit une nouvelle Jérusalem, une nouvelle habitation. On peut avoir des photos comme ça, on peut avoir des peintures comme ça, ça paraît beau, mais on ne peut pas s'imaginer. L'imagination de l'homme ne peut pas même toucher ce que Dieu a préparé pour nous, la cité de Dieu, une place, surtout une place de communion intime avec votre Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix pour vous. Ça va être la cité de Dieu. Et Dieu va demeurer avec l'homme et l'homme va demeurer avec Dieu. Comme au début, lorsqu'il marchait chaque jour avec Adam et Ève dans le jardin, qu'il venait et avait communion avec eux. Ça va revenir à cela, de ce qu'on va avoir, communion intime intimité avec notre Dieu. Alléluia. Avez-vous hâte? Amen, j'espère. Toute cette nouvelle création est remplie de la présence glorieuse de Dieu et de l'agneau. La prophétie de Zacharie trouve son accomplissement ici dans la nouvelle Jérusalem. Dans Zacharie chapitre 14, verset 20, ça nous dit ceci: « En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux. Sainteté à l'Éternel et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. » Comment ça? Ça a l'air un verset bizarre, n'est-ce pas, ici, que sainteté à l'Éternel vont être écrits sur les clochettes des chevaux et les chaudières, ça veut dire les cooking pots, les marmites de ce qu'on fait, la cuisson. OK? Ça sera écrit sainteté à l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Où peut-on s'attendre à voir écrit sainteté à l'Éternel, des clochettes comme ça, d'être écrit sainteté à l'Éternel sur les clochettes? Bien, d'où est-ce qu'on voit ça? Bien, dans l'Ancien Testament, on voit ça, les clochettes, vous vous rappelez, les cloches sur le vêtement des sacrificateurs. Les clochettes, t'as là. Et ça représentait la sainteté à l'Éternel. Et lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le temple, dans le lieu très saint, et c'était juste une fois par année, il venait là pour représenter son péché, le péché du peuple, mais il avait le droit d'entrer et d'entrer dans le lieu très saint et d'offrir un holocauste pour le peuple de Dieu, juste une fois par année. Il avait le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Et une autre raison qu'il y avait les clochettes, c'est au cas où que Dieu n'accepterait pas le sacrifice et le jugerait que le souverain sacrificateur tomberait mort là, hein, il attendrait les clochettes. Puis là, il prenait une corde pour enlever le seul souverain sacrificateur de la présence de Dieu, parce que c'était juste lui qui pouvait entrer. Un jour, frères et sœurs, nous allons entrer dans la vraie présence de Dieu. Hein? Et c'est intéressant qu'il dit ces clochettes-là, ce n'est pas juste sur l'homme, mais on voit les clochettes sur les chevaux. Pourquoi les cloches qui proclament sa sainteté, sainteté à l'Éternel portée par des chevaux, par des, en bon français, des joies? Hein, comment se fait que c'est porté par des chevaux? Et pourquoi les marmites pour faire d'où ce que la cuisine est? Vous allez au restaurant, mais vous ne voyez pas la cuisine. Mais le Seigneur, vous ne voyez pas la cuisine. Hein? Et quand on voit une mouche dans le restaurant, on dit « retourne en cuisine ». Voilà. Hein? Mais même sur les marmites, c'est écrit, dans la Nouvelle Jérusalem, c'est écrit « sainteté à l'Éternel ». Alors, sont traités comme des coupes devant l'autel dans le temple. Ces deux images, les clochettes et les marmites, sont la manière de Dieu de nous dire que dans le nouveau royaume de Dieu, chaque aspect de la vie sera sainteté à l'Éternel, voyez-vous. Sainteté à l'Éternel dans ce nouveau ciel, nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, ce sera sainteté à l'Éternel. Tout sera saint dans l'homme, dans l'homme et l'Ancien Testament, et même aujourd'hui, c'est tellement l'imperfection autour de nous. Nous pouvons proclamer en tant qu'Église sainteté à l'Éternel, mais des fois on trébuche. Et ce n'est pas sainteté à l'Éternel, mais dans ces jours-là, même les marmites, même les cloches des chevaux, ça sera écrit sainteté à l'Éternel, parce que tout aspect, toute chose, dans la Nouvelle Jérusalem sera saint, sera pur. Et toute chose pourra proclamer un jour sainteté à l'Éternel. Encore une fois, ceci est comparable à notre verset de tantôt, 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est ça, Dieu veut pour vous et moi, voyez-vous, qu'on puisse vivre pour lui, qu'on puisse vivre pour sa gloire. Mes frères et sœurs, il va venir un jour d'où ce que ça sera cela dans la perfection. Sainteté à l'Éternel. Et alors, c'est quelque chose qu'on peut look forward to, qu'on peut regarder dans l'avenir et avoir hâte. Mais ce n'est pas toujours le cas maintenant. Nous trébuchons malheureusement, mais dans ce nouveau royaume, rien ne sera impur. Rien. Pas de peau impure, pas de personne impure, pas de commerçant impur, pas de marchand impur, rien d'impur. Ça va juste sainteté à l'Éternel. Les sacrificateurs étaient impurs dans le temple, dans l'Ancien Testament, mais pas là-haut. Là-haut, ce sera nouveau. C'est pour ça qu'il parle de nouveau, nouveaux cieux. Et que la cité de Dieu, la perfection, va descendre sur terre, afin que nous puissions habiter avec Dieu et Dieu avec nous, comme au début. Jésus a dit qu'ils ont fait du temple une caverne de voleurs, vous vous rappelez? Mais le temple millénaire sera sainteté à l'Éternel. Le livre de Zacharie débute avec, avec la repentance. Si vous lisez le livre de Zacharie, mais elle termine avec une vision du royaume glorieux. Zacharie a œuvré dans un temps difficile, dans son temps, un endroit difficile également, mais Dieu lui a donné une vision et Dieu lui a montré ses plans pour le futur. Et je veux ajouter à cela notre futur, le futur de l'humanité, de l'homme qui a été transformé et changé par l'Esprit de Dieu, par le sacrifice de Christ. C'est pour ça que c'est tellement important pour vous et moi, en tant qu'individu, en tant que personne, de permettre Christ, d'inviter Christ dans notre vie. Ceci nous parle de l'importance d'avoir un esprit de repentance, d'ailleurs, qui récoltera une moisson glorieuse dans le nouveau royaume. C'est pour ça que Paul nous avertit, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, de se regarder soi-même, de vraiment penser qui nous sommes et d'avoir un esprit de repentance. Et avec cela, nous préparer, Dieu nous prépare pour l'éternité. Parce qu'un jour, cela va récolter une moisson glorieuse dans le nouveau royaume pour vous. Alors aujourd'hui, c'est la repentance. Demain, ce sera le pardon éternel. Aujourd'hui, vous pouvez aussi être dans un temps difficile, situation difficile ou un endroit difficile, mais prenez courage. Prenez courage. L'époux revient. Jésus revient. Et alors, nous avons, frères et sœurs, raison d'espérer. Nous avons un futur. Nous anticipons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et nous anticipons un royaume nouveau, et nous anticipons une intimité avec Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Quatrième chose, dernière chose, on veut parler d'une petite prière qui se fait dans Apocalypse chapitre 22. C'est la prière de l'épouse, ou si vous voulez, la prière de l'Église. Nous trouvons l'épouse qui prie deux prières. Et en terminant, je vais vous donner ces deux prières-là. La première prière, c'est ceci, et l'Esprit, parce que l'Esprit nous aide à prier, l'Esprit et l'Épouse, c'est nous autres, c'est l'Église, dise « Viens » et que celui qui entend dise « Viens » et que celui qui a soif « Vienne » que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors, c'est l'Église qui prie. C'est l'Église qui prie pour les autres. C'est l'Église qui témoigne. C'est l'Église qui marche pour Christ, qui brille pour Christ et qui prie le Seigneur, qui prie leur Dieu et qui dit, viens, 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 et que celui qui a soif vienne. Et ici, nous voyons l'épouse, nous voyons l'Église qui prie de tout son cœur pour ceux et celles dont leurs noms seront écrits dans le livre de vie de l'agneau qu'on a vu tantôt, mais qui ne sont pas encore sauvés, qui ne sont pas là. Nous prions pour eux. Nous prions pour ceux-là. On prie, Seigneur, pour ceux que tu vas appeler. On prie pour ceux qui sont perdus, Seigneur. Tu veux qu'aucun périsse. On prie pour eux, Seigneur. Et on prie. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a un ministère que nous ne devions jamais abandonner, c'est le ministère de la prière. Pour nous qui deviennent de plus en plus âgés et qu'on peut faire de moins en moins de choses, on peut toujours prier. Et c'est le ministère le plus précieux, le plus important pour prier, prier pour nos proches, prier pour nos enfants, prier pour nos petits-enfants, prier pour nos voisins, prier pour ceux que le Seigneur dépose sur notre cœur et qu'on a besoin d'intercéder pour eux autres. Ne jamais cesser, ne jamais abandonner dans la prière, ne jamais céder, jamais s'arrêter de prier. C'est la première prière qu'on voit. La deuxième prière de l'épouse est son focus sur la seconde venue de Jésus-Christ. Ça devrait être notre focus aussi. La deuxième venue de Jésus-Christ. C'est une très courte prière, n'est-ce pas? Mais poussée par un espoir. Wow! Un espoir vibrant, un espoir vivant, un espoir victorieuse. C'est une espérance pour le futur. Et l'Église prie, Amen, viens Seigneur Jésus. Amen, viens Seigneur Jésus. Autant que Jésus dit, oui, je viens bientôt, maintenant nous répondons à sa prière, nous répondons à son désir et nous disons, Amen, viens Seigneur. Nous répondons à sa prière et nous dit, oui, viens Seigneur Jésus. J'espère que c'est votre prière dans votre cœur, qu'il y a des gens qui veulent tenir la vie tellement, parce que c'est tout ce qu'ils ont, c'est cette vie. C'est tout ce que Mme Goodall, Jane Goodall avait, c'est ce monde, c'est tout ce qu'elle avait. Son espoir, c'était ce monde ici. Mes frères et sœurs, nous avons, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui se donnent, qui se livrent à Christ, nous avons un autre espoir. Raison d'espérer. Amen! Viens, Seigneur Jésus! Amen. Et alors, nous devons être prêtes. Et vous pouvez être prêtes aujourd'hui. Amen. Prions le Seigneur. Je vais inviter Sylvie de venir, s'il vous plaît. Et on va chanter un chant ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse chanter ce cœur qui nous dit « Tel que je suis, sans rien à moi », probablement vous le connaissez par cœur. « Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'amène à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. » Amen. Levons-nous ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier que tu prépares une place pour ton peuple, pour ceux et celles, les noms qui sont écrits dans le livre de vie, le livre de l'agneau de Dieu. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin, parmi nous, qui n'est pas prête, qui n'a pas reçu Christ dans leur cœur, dans leur vie, qu'ils puissent faire la prière dès aujourd'hui, qu'ils puissent faire la prière maintenant, à cet instant même, et de te recevoir dans leur cœur. Si vous n'êtes pas sûr où vous en allez dans l'éternité, priez cette prière avec moi aujourd'hui. Mon Dieu, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. Seigneur mon Dieu, je réalise qui je suis, un pécheur. Lave-moi de tous mes péchés. Je t'invite d'entrer dans ma vie, dans mon cœur, de faire la différence. J'accepte ta mort sur la croix et j'accepte et je crois dans le tombeau vide que tu as ressuscité d'entre les morts. Viens par ton esprit. Transforme-moi, pardonne-moi et fais de moi ton enfant pour l'éternité. Je te prie. Amen.